Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour et merci d'être attentif aux images qui nous entourent avec France Inter et Regardez voir. Le samedi, vous le savez, je donne la parole aux photographes et le dimanche à 14h, je donne la parole aux images mythiques. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car je reçois Annie Dupéré que vous connaissez comme actrice et écrivaine. Grâce au livre Le Voile Noir, vous connaissez l'histoire intime d'Annie Dupéré qui, avec sa sœur Patricia, perd de leurs parents dans un accident domestique. Annie avait 8 ans, Patricia 5 mois. Leur père était photographe. Pendant 35 ans, ni Annie ni Patricia ne veulent regarder les négatifs de Lucien Legras. Mais les deux jeunes sœurs se lancent dans la photographie et un jour, elles regardent enfin les photos de leur père. Toutes ces images sont réunies à Vendôme jusqu'au 1er septembre. Celle d'Annie Dupéré, celle de sa sœur Patricia Legras qui est décédée il y a une dizaine d'années et celle de leur père Lucien Legras. Des regards dont la parenté est sensible. Des photos portées par Annie Dupéré qui est notre invitée aujourd'hui jusqu'à 15h.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Bonjour Annie Dupéré.
Bonjour.
Merci d'être ici dans Regardez voir. Avec vous cet après-midi, nous allons parler uniquement de photographie.
Ben d'accord.
De vos photographies, celles de votre père et de votre sœur. Et comme elles sont exposées en ce moment dans le festival Les Promenades Photographiques de Vendôme, qui fête d'ailleurs leurs 15 ans, nous allons saluer la directrice de ce festival que vous connaissez, bien sûr, Odile Andrieux.
Oui.
Bonjour Odile Andrieux.
Bonjour Brigitte, bonjour Annie.
Je ne fais pas les présentations alors.
Non, on se connaît effectivement.
Alors Odile, on est en plein dans le festival là. Où est-ce qu'elle est située l'exposition d'Annie Dupéré?
Elle est au Manège Rochambeau, dans un lieu magnifique qui fait 1400 mètres carrés et qui est un bâtiment qui date du 19e siècle et qui accueille 15 expositions, dont l'exposition de Annie, Patricia et Lucien Legras.
C'est vous qui avez choisi les photographies ou vous, Annie Dupéré, vous avez tout de même fait le choix avec Odile Andrieux?
Oui, c'est-à-dire que mon père, en ce qui concerne mon père, il avait, lui, fait un choix qui m'est parvenu sous forme de photos de ses expositions. C'est-à-dire que dans les photos qu'il a laissées, tous les négatifs que j'avais, il y avait aussi des négatifs qui avaient été pris de ses mises en place d'expositions au temps où il exposait à Rouen avec le groupe des Sept. Voilà. Donc c'était peu après ma naissance, je suppose, après la guerre. Et puis donc j'ai un exemple comme ça des photos qu'il aimait, de celles qu'il voulait exposer. Et c'est celle d'ailleurs que nous avions choisie pour faire le livre qui s'appelle Lucien Legras, photographe inconnu, que j'ai fait avec Le Seuil, après m'être servi de ces photos pour écrire Le Voile Noir.
Odile Andrieux, qu'est-ce qui vous touche dans les photographies de Lucien Legras, le père d'Annie Dupéré?
Moi, je trouve qu'il y a une infinie douceur et poésie. Je pense sincèrement que son travail avait été plus connu, s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait la même place qu'un Doisneau, un Ronis, un Bill Brandt dans cette photographie de paysage, cette photographie humaniste. C'est drôle, moi, quand je vois que je pars me promener, je pense à ces photographies le matin dans la brume, où Annie en parle dans un de ses livres, justement, de ces promenades matinales qui sont infiniment...
Et d'ailleurs, dans Le Voile Noir, Annie Dupéré, vous dites, mais qu'est-ce qui l'attirait à ce point pour sortir le matin, aller dans la brume et faire ses images?
Évidemment, parce qu'il y a des lumières très touchantes le matin, comme ça, dans une brume, quand le monde n'est pas tout à fait réveillé, il y a quelque chose d'innocent et de mystérieux en même temps. Donc je pense que c'est ça qu'il aimait capter. Mais ce que j'aimais aussi beaucoup dans cette recherche photographique qu'il a eue, c'est cette recherche qu'il y avait de la, de la matière, des natures mortes, de simplement parfois le plaisir de photographier comme ça une feuille ou un mur, quelque chose qui devenait à la limite de l'abstraction.
Une fenêtre aussi.
Une fenêtre, voilà. Une lumière à travers quelque chose qui n'était pas forcément ni un paysage ni une grande photo, mais qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai hérité de son regard, qui moi m'enchante. Voilà.
Odile Andrieux, avant de vous quitter, donnez-nous un petit aperçu de la programmation en dehors de l'exposition des photos d'Annie et de celle de son père et de sa sœur.
Je voudrais juste rajouter cette petite chose à propos des photographies qui réunissent à la fois Lucien, Patricia Legras et Annie, c'est qu'il y a aussi cette infinité de l'instant qui me rappelle aussi les photographies de Claude Bateau dans ce témoignage du quotidien qui est très poétique. Et la qualité que Annie a à photographier ses amis, qui ne posent pas pour des magazines de mode, etc., pour être vendus comme on vend les acteurs dans les magazines, mais qui ont la justesse de l'amitié, de ses regards. Il y a un portrait de Laurent Terzieff qui est sublime, celui d'Isabelle Adjani qui est magnifique, et il y a une justesse dans ses propos qui sont magnifiques. Donc parmi les photographes qui sont exposés, donc on a le grand Perham, on a Franco Fontana, magicien de la couleur, celui-ci, Thierry Arensma qui va mettre en scène des chevaux fantomatiques. En tout cas, ce que l'on met à l'honneur ici, c'est vraiment le travail des photographes qui ne sont pas exposés dans les autres festivals traditionnellement ou quand ils le sont, pas sous la même forme.
Odile, nous allons venir à Vendôme pour visiter ce festival. Il y a tellement de matière à regarder, à voir, les promenades photographiques de Vendôme. Merci beaucoup.
Et Sarah Moon.
Oh.
Sarah Moon.
Ah, mais vous oubliez Sarah Moon. Ah non, mais ça
Sarah va. Moon, enfin.
Mais enfin. En tout cas, on se retrouve aux promenades photographiques de Vendôme. Au revoir.
Au revoir.
Annie Dupéré, parlez-nous aussi des photographies qui sont exposées dans le festival Les Promenades Photographiques de Vendôme.
Oui.
Il y a les photos de votre père et aussi celles de votre sœur.
Voilà, c'est ça. Parce que ma sœur, très discrètement, mais encore plus discrètement que moi, était photographe, elle aussi. Elle avait vu les photos de mon père, elle s'est mise à la photographie après. Et par respect pour notre père, elle est restée tout à fait dans sa ligne, comme ça, d'une photographie qui est très, je trouve, qui est très architecturée, sur le noir et blanc, comme ça. De recherche de lignes, de rythme, très dans la lignée du père, effectivement. Je trouve qu'il y a une unité, en fait, dans nos photos, c'est une famille. C'est une famille de photographes, je crois.
Annie Dupéré, en dehors des lieux où sont exposées vos photographies, celles de votre sœur et de votre père, allez-vous dans les lieux dédiés à la photographie pour, par exemple, découvrir des photographes, voir des grands photographes historiques, des expositions en
Mais
général
j'avoue que non, parce que là, il faut que je vous avoue quelque chose.
Oui.
Ce projet de faire un livre de mes photos est né absolument... Je dis pas par hasard, mais comme une surprise, comme ça, qui m'est arrivée sur la demande d'un de mes amis corréziens, qui voulait inaugurer un lieu d'exposition dans son village, à Saint-Hilaire-Luc, en Corrèze. Et donc, il avait vu, parce que j'avais numérisé moi-même certains de mes clichés, et il les avait vus. Il m'avait dit, mais je trouve que tu fais des très belles photos, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une exposition pour inaugurer ce lieu? Oh! Je dis, mais ça fait 20 ans que mes négatifs dorment dans des classeurs, certes bien rangés, au fin fond d'un placard en creuse dans ma maison.
Décidément. Le tiroir de la commode.
Voilà, après le tiroir, les miennes, bon, j'avais aucune raison, je suis pas photographe, même si j'ai aimé passionnément ça pendant 20 ans, je n'avais finalement aucune raison de montrer ces photos à quiconque. Voilà, j'étais déjà comédienne et écrivain, c'était pas mal. J'allais pas en plus m'arroger le droit de dire « regardez mes photos ». Non, c'était pour moi, pour mon plaisir, cette passion, elle avait été, qui m'a conduite aux photos de mon père. Et puis voilà, on a fait cette exposition, mon éditeur a vu ces photos et m'a dit « mais il y aurait de quoi faire un joli petit livre ». J'ai dit « oui, un petit livre, c'est bien parce que je vais rester modeste, on va pas faire un grand livre d'art, on va faire un petit livre ». Et puis je me suis dit, mais après tout, si je fais un petit livre de photos, il faut que j'explique quand même, parce que je ne vais pas sortir ça comme ça. Et c'était très agréable d'écrire d'abord sur la photo. Je n'ai pas vu venir le fait que ça allait être aussi une sorte de biographie sous l'angle
oui.
de la passion photographique. Ça, c'est toujours de ces choses comme ça. On part tout à fait innocemment, on parle du laboratoire, de tout ça, on parle de choses assez gaies, puis tout à coup, on parle des photos du père, de comment je les ai découvertes, et bon, on arrive encore à parler de soi.
C'est comme si vous disiez aussi, je n'ai pas vu venir le fait d'être appelé un jour photographe. Or, vous l'êtes, et vous êtes, ce qui est incroyable, enfin, si on a lu Le Voile Noir, et puis là, les photos d'Annie, on se rend compte qu'en fait, vous êtes vraiment, mais né sous le signe de la photographie,
ah oui.
puisque votre père, Lucien, demande un jour à la belle collègue Ginette, votre maman, de poser nue pour lui, là, je vous lis, hein, Annie
oui,
Dupéré,
oui.
afin d'étudier la manière d'éclairer un corps. Il n'étudia pas uniquement la lumière, puisque c'est ainsi que je fus conçue pour l'amour de l'art photographique.
Absolument. Ça me fut conté tardivement par
qui vous a
Tata,
raconté,
la sœur de mon père, qui m'a, quand j'ai dit que je faisais des photos en tant que jeune comédienne, je crois au tout début, elle m'a dit surtout hein, pas de photos nues parce que alors ça va pas recommencer. Hein. Qu'est-ce qui va pas recommencer? Elle me dit bah, c'est comme ça que t'es née. Voilà. Bon, donc j'ai appris ça comme ça que j'étais née grâce à une séance photo. Quand même, c'est pas mal. Bon, mon grand-père était projectionniste aussi,
c'est
donc
ça.
Dans la pellicule.
Voilà.
Il avait aidé mon père à construire son grand agrandisseur. J'ai un vague souvenir de l'énorme machine qui était cet agrandisseur pour développer les plaques photographiques. Donc, ils avaient une complicité. Le beau-père et mon père avaient une complicité énorme au niveau de l'image, comme ça. Ils faisaient des films ensemble. Donc, la pellicule était dans la famille. Mais quand j'ai eu cette demande de cet ami pour sortir mes photos, j'ai été vraiment très surprise d'une chose, c'est que quand on développe ses pellicules soi-même et qu'on fait ses planches de contact soi-même, c'est évident qu'on les met dans des classeurs, qu'on met tout ça sous papier cristal, que c'est bien ordonné. Et j'avais fait aussi des pages où je mettais le numéro de la planche. Mmh. Et sur ces pages, j'avais marqué les bonnes photos avec trois croix, deux croix ou une croix et toutes les notations pour les développer, c'est-à-dire attention, faire sortir le ciel, il est trop clair, attention, masquer tel détail qui est trop foncé par rapport au reste, tout pour les développer le mieux possible. Donc je me suis dit que c'était tout à fait étonnant parce que j'avais déjà en préparation tout ce qu'il fallait pour faire ce petit livre de
où
j'ai mis sans photo.
Et vous vous souvenez tout de même de votre toute première photo peut-être ?
La toute première, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je me souviens de puisque je le raconte. Comment un ami qui me photographiait m'a demandé tout à coup de prendre l'appareil pour lui faire quelques photos. Et que je pouvais plus lâcher cet appareil. Ça, je m'en rappelle très bien. Et que j'avais envie d'essayer tous les objectifs et qu'à chaque fois je regardais dedans avec, c'est la première fois de ma vie, en fait, que je faisais une photo, quoi. Et ça, je m'en rappelle très bien. Mais les premières que j'ai faites, non, je me souviens pas. Je me souviens pas. C'était ma sœur après. Mmh. Oui.
On va parler justement de votre appareil photo à vous dans quelques instants.
S'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadou, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'anges, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, amoureux à gare s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile, et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche, sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence. Et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout, on s'habitue à tout. Mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même. Ce baston de mots doux, on s'habitue à tout. Pour l'amour qui part, les amoureux agarrent, s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou.
C'est un nouvel album de Renan Luce, 11 titres avec celui-ci, on s'habitue à tout.
Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
Cet après-midi sur France Inter, je vous propose de nous rejoindre avec Annie Dupéré. Nous parlons uniquement, même si elle dit qu'elle n'est pas photographe, uniquement de photographie. C'est vrai que vous avez du mal à le dire. Je ne suis pas photographe.
Oui.
Je suis comédienne, écrivaine.
Oui, mais c'est vrai que, par exemple, je me refusais à dire que je suis peintre, bien que j'ai fait 2 ans de beaux-arts et que je peigne. Et je dis non, attendez, je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Mais je n'ai pas trouvé ma manière de m'exprimer. Alors en photographie, peut-être finalement suis-je un peu plus légitimement photographe que peintre.
Ah oui, vous ne dites pas sûr. Je fais des jolies photos uniquement, tout de même.
Non, je crois pas. Je crois que j'avais été quand même un peu plus loin là-dedans, sans du tout investir, je veux dire, personnellement, sur cette activité de photographe, du tout. C'était juste pour mon plaisir, mais je crois que je l'avais fait vraiment très sérieusement.
Ouais. Alors, comment avez-vous choisi, Annie Dupéré, votre premier, le seul, l'unique appareil photo?
Ben, c'est effectivement ce monsieur qui voulait me faire une séance de photo, qui était un photographe amateur, dont lui non plus, c'était pas du tout le métier, mais qui avait ce matériel magnifique comme ça, et qui m'a demandé de lui faire quelques clichés, puis comme il voyait que j'étais très intéressée, il m'a dit, écoutez, moi je travaille dans un bureau, j'en ai pas besoin la semaine, je fais de la photo le week-end, gardez donc mon matériel une semaine. Donc je n'osais pas sortir avec, j'ai fait tout le tour de chez moi en regardant les objets, notamment à travers un 180 mm qui ouvrait à 2,8.
Votre objectif préféré.
Mon objectif préféré. Et je m'apercevais que, regardant la moindre chose dans mon petit studio à travers cet objectif, il devenait beau. Donc, il y avait un côté, les détails estompés autour, et il était comme mis en valeur, comme ça, comme surgissant dans l'objectif. Et c'était absolument magnifique. Donc, j'ai rendu, évidemment, au monsieur son matériel et j'ai couru acheter le même.
Qui coûtait cher à l'époque.
Oh la vache. Oh, ça coûtait très cher à l'époque, oui. Je crois que j'ai commencé par acheter le boîtier et le fameux 180.
Oui, c'est déjà
voilà.
Pas mal.
Et puis après, on a vu.
Alors, écoutez Annie Dupéré, le photographe Gilles Wacky, grand reporter au Parisien puis à Paris Match, il est devenu collectionneur d'abord d'art contemporain et maintenant c'est un artiste. Dans ses créations, il utilise pas mal le Leica. Et écoutez-le, c'était en 2005 sur France Culture à propos de cet appareil photo.
Vous savez, le Leica, c'est comme une sûreté, quoi, une sécurité dans ce métier de photographe. Vous savez, on dit toujours que le Leica, on peut enfoncer un clou avec. Donc, et c'est vrai, vous prenez votre Leica, vous tapez sur un clou, et ben, le clou s'enfonce, le Leica, il a rien. Le Leica, quand vous avez un Leica en main, il y a quelque chose de, pas de sensuel, c'est de sécurisant, voilà. On vous donne le Leica, vous faites pas les photos de Cartier-Bresson. Sauf que, on a un lien entre Cartier-Bresson et nous, les utilisateurs de Leica, c'est qu'il y a une humilité. c'est pas tout le monde qui peut utiliser un Leica. Il faut une imagination de la visée qui est pas vraiment fiable. Le Leica, le Nikon, il est fiable, quoi. Ce que vous avez dans le viseur, vous l'avez dans la photo. Le Leica, il y a une certaine imagination, une certaine appréhension de l'image. Donc on est en plus en technique, quoi. Voilà, l'utilisateur du Leica, c'est quelqu'un de technique, c'est quelqu'un de tranquille, de posé, et qui peut se dire, je fais une photo, je suis sûr qu'elle est là.
Gilles Wacky sur France Culture.
Merveilleux.
Annie Dupéré. D'abord, évidemment, la question, avez-vous déjà essayé d'enfoncer un clou avec votre appareil photo?
Je ne m'y risquerais pas, grand Dieu, même s'il affirme qu'on peut le faire.
Est-ce que c'est vrai que l'utilisateur de cet appareil est tranquille, posé?
Oui, c'est possible, c'est possible. C'est vrai que je l'ai trimballé partout, et c'est vrai qu'il ne s'est jamais enrayé ni nullement. J'ai pas essayé beaucoup d'autres appareils, j'en ai pas essayé d'autres d'ailleurs, c'est tout simple.
Ah ben oui, c'est très simple.
Donc c'est mon seul que j'ai fait réviser quand même. Que j'ai fait réviser parce qu'on ne trouve plus les piles. Bon, c'est un appareil argentique, là, je ne sais pas du tout. Par exemple, mon gros 180, techniquement, par exemple, je ne sais pas s'il peut, comme on règle le point avec, je ne sais pas s'il peut s'adapter sur un boîtier numérique, par exemple.
Ah, c'est une bonne question. Aujourd'hui, Annie Dupéré, vous faites encore des photos avec cet appareil-là ou plus du tout?
Non, pour le moment plus, mais je l'ai fait réviser quand même.
Ah oui.
Je l'ai fait réviser quand même pour voir si ce serait pas agréable de faire quelques portraits en noir et blanc. Alors après, je m'en suis servi pour faire de la pellicule couleur, pour photographier l'enfance de mes enfants. Mais le noir et blanc, pour moi, il est dédié au noir et blanc, cet objectif, cet appareil, quoi. Par exemple, c'est vrai qu'un beau visage, voyez-vous, ce Odile parlait tout à l'heure, ou vous, de ce portrait de Terzieff que j'ai fait sans qu'il sache que je le photographie. Ce portrait, pour moi, c'est la vie intérieure absolue, quoi. C'est un moment d'intimité avec lui-même formidable. Eh bien, si c'était de la couleur, peut-être ses beaux yeux bleus seraient une séduction qui nous détournerait du sens de son regard. Mmh. Voilà. Mmh. Et je trouve que la couleur, effectivement, est une séduction qui parfois trouble vraiment l'expression.
Et en même temps, toutes les photos qui vous ont permis de reconstituer votre histoire avant la mort de vos parents, ce sont des photos en noir et blanc.
Oui.
Et vous rentrez dans les photos, vous faites des gros plans sur, je pense à cette photo du mariage, où vous isolez votre père, votre mère, et vous rentrez dans le regard de votre mère. Mmh. Et ce sont des photos en noir et blanc.
Oui, bien sûr.
C'est comme si ça avait... C'est votre éducation, entre guillemets.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est lorsque j'ai découvert les photos de mon père et que la photographie, pour le coup, que je pratiquais vraiment très joyeusement et je dis semi-innocemment, puisque inconsciemment devait y avoir quand même derrière quelque chose de l'histoire quand même qui restait, de pas vouloir voir les photos de mon père et tout ça. Mais à partir du jour où je les ai découvertes, c'est vrai que la photo... Le sens de la photo est devenu beaucoup plus sensible et presque dramatique, puisque n'ayant aucun souvenir d'enfance, il m'a offert la preuve qu'elle avait existé. Donc, effectivement, prendre un appareil, photographier quelque chose ou quelqu'un devenait beaucoup moins léger à partir du moment où on pense que non seulement à la minute d'après, ça n'existe plus ce qu'on a photographié, c'est un moment comme ça, mais qu'un jour vous regarderez cette photo alors que vous ne serez plus là, ou que la personne ne sera plus là, et qu'il y a dans toute photo, il y a une présence du jamais plus, et qui est devenue effectivement extrêmement sensible, donc le noir et blanc est devenu un peu sacré, quoi.
Annie Dupéré, on va regarder une photo dans Regardez voir. On donne la parole aux photographies en les proposant à quelqu'un, non pas dans la rue, mais à quelqu'un dans la maison de Radio France, quelqu'un qui ne sait rien de la photo. Écoutez.
Oh, une photo où on est en fait au pied, on va dire, d'un garçon qui nous surplombe. Alors, nous avons des marches et un pan de mur qui est en granit. Alors ça, c'est déjà une indication, parce que ça veut dire que l'on est... On pourrait être dans le Morvan, on pourrait être dans la Bretagne, et on peut être aussi dans le Limousin. Et bien moi, je pencherais pour le Limousin, pourquoi? Parce qu'en fait, l'encadrement de la porte en bois et la marche en bois... Ça doit être du chêne ou peut-être du châtaignier. Ça, c'est une indication, on va dire, géographique. Donc, allez, on va dire que l'on est dans le Limousin. Alors, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze, dans la Creuse? Je ne sais pas où on est. Et il y a ce jeune garçon, alors, qui ressemble furieusement, on va dire, à Bernard Giraudot. Il a aussi un petit côté Arthur Ashe. Alors, qui nous regarde de façon, j'allais dire, pas complètement désabusée. Alors, il a un chapeau qui va recouvrir tout son front. Et on voit ses yeux, ce regard assez incroyable. En même temps, il nous interroge, et puis en même temps, il est ailleurs. Il est en train de dire au photographe, bah écoute, vas-y, prends-la ta photo, ça te fait plaisir. On a l'impression peut-être qu'il a été, soit qu'il sort d'une sieste, soit qu'il est, fatigué parce qu'il a fait beaucoup de travaux ou pas. Enfin voilà, il est en tenue tout à fait décontractée, avec un jean. Il n'a pas de chaussettes, il nous regarde, il nous scrute. Il a une montre. Il a une montre au poignet, ce qui veut dire que le temps, malgré tout, lui importe. Peut-être qu'il regarde la course du soleil aussi, on ne sait pas. Dans un pays où peut-être que le temps, évidemment, défile différemment. Il n'y a rien d'agressif. Il y a quelqu'un qui s'est posé sur une marche, comme ça, de bois, et qui nous regarde.
Merci Denis Chessoux, producteur de CO2, mon amour, sur France Inter.
Oui, c'est chouette.
Annie Dupéré, vous m'avez montré, pendant que Denis Chessoux parlait de la montre, que vos bras étaient nus.
Oui, absolument, celle qui veut estomper les repères.
Pas de date, pas d'heure.
Pas de date, pas d'heure, oui.
Et alors là, c'est une photo donc de Bernard Giraudot.
Bravo pour le châtaignier, en tout cas.
C'est vrai?
Ah oui, 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 ça c'est super. Oui,
incroyable.
Limousin, il a raison, puisque c'est en Creuse.
Oui.
Oui, oui, tout à fait. Et Bernard, j'aime beaucoup, beaucoup cette photo de Bernard, parce que, bon, je m'amusais pas beaucoup à photographier Bernard. Hein. Déjà, il aimait pas ça, comme personne n'aime ça, et voilà. C'était un acteur, en tout cas, qui n'aimait pas être photographié tellement. Mais quand il se laissait photographier, généralement, il posait. Il posait ou il faisait l'imbécile. Et cette photo-là, effectivement, il a tout à fait raison. Ça a été « prends-la ta photo puisque t'en as envie ». Voilà, et tout. Et là, il ne joue pas. Il joue pas du tout. Je crois que on devait être en train de finir de gratter le plancher de ce grenier à foin qu'allait devenir notre chambre, puisqu'on était en train de faire notre maison de famille, là, en Creuse. Et donc, voilà, il est tranquille, il vient de travailler, et puis on va continuer, et puis voilà, il n'a aucune expression de jeu quelconque.
Vous l'avez toujours, cette maison en Creuse?
Oui, oui, oui.
Elle est importante à vos yeux et
à votre
cœur?
Ah oui, elle est importante parce que c'était vraiment le nid familial, voilà.
Oui,
oui, oui, tout à fait.
Oui. Et vous avez fait d'autres photos qui sont dans le livre, les photos d'Annie, de l'environnement, de la campagne. J'ai l'impression que la campagne vous inspire plus en photographie que la ville.
Oui, ah oui, 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 bien sûr. Mais c'est drôle, j'ai assez peu photographié la campagne en Creuse, qui était à mon avis trop riante, trop exubérante, parce que la Creuse c'est un pays où il n'y a jamais eu le remembrement. Donc il y a un paysage qui est celui de nos arrière-grands-parents, très joli, très des haies, des
avec
choses
des
comme
haies,
ça.
Bien sûr.
Et C'est vrai que par contre les paysages de nature que j'ai faites, je les ai faites plus près de Paris. En fait, près d'une petite maison qu'on m'avait prêtée pour écrire. Et c'est vrai que le côté champ labouré à l'aube, comme ça, il y a par exemple, j'ai mis dedans cette photo que j'appelle le terrible épouvantail. À 50 km de Paris, quand même, les paysans plantaient un piquet avec un cadavre de corbeau pendu pour faire fuir les corbeaux, parce qu'on sait que les corbeaux, quand ils voient un cadavre de l'un des leurs, ne viennent plus. Donc c'était un repoussoir, c'était quelque chose. Et il y avait quelque chose de barbare, comme ça, entre l'ombre, les sillons, quelque chose de tout à fait terrible, comme ça. Et j'aimais mieux cette mélancolie-là. Là, je rejoignais mon père aussi un peu.
Ouais, absolument. Voilà. Ah ouais. Mais c'est intéressant de vous entendre dire que la Creuse est riante. Vous avez dit cela.
Oui, oui.
Parce que souvent, quand on parle de la Creuse, on se dit, mais
oui, oui,
il n'y a pas grand-chose à faire, à voir, alors que c'est absolument magnifique.
On vous répond quelquefois, je me suis installée en Creuse, oh ma pauvre. Avec des gens qui n'y sont jamais allés,
mais
hein, du tout, ils ne savent pas du tout, du tout.
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth.
when the rain is falling hard and the storm is far from over. My lady love, that's you. You give me everything I like. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, lady love, that's you. You give me you take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I give my world to you. Let me show you how. Let me show you now.
Trois hommes se cachent sous le nom de ce groupe Roseau. Et pour ce titre, Earth and Soul, ils ont fait appel au chanteur suédois Ole Nyman.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Est-ce que tout va bien pour vous, Annie Dupéré?
Oui.
Dans
oui,
cet
oui.
après-midi sur France Inter avec Regardez voir.
Tout va bien.
J'ai envie qu'on parle des portraits. Il y en a beaucoup dans le livre Les photos d'Annie. Quand vous faites un portrait de, souvent ce sont des portraits d'amis, mm-hmm. amis comédiens, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ah, ces photos-là que j'aimais, que j'ai mis dans le livre, c'est ce que j'appelle les portraits intérieurs. C'est-à-dire un moment où j'ai pu capter, quelquefois sans qu'il le sache d'ailleurs, quelqu'un dans un moment d'abandon total, dans un moment de vie intérieure comme ça, qui n'était pas en action d'acteur, ni en cherchant à être joli ou beau ou aimable ou rien du tout quoi. C'est des portraits de vie intérieure, je trouve. Il y en a quelques-uns dedans. Il y a surtout Terzieff, effectivement. Il y a Isabelle Adjani, que j'ai photographié chez moi, alors que des amis du conservatoire l'avaient amenée pour fêter ses 18 ans. Elle était très malade, je sais, ce jour-là. Elle avait un rhume des poings épouvantable, elle se mouchait sans arrêt, elle était pas très bien, en fait. J'ai beaucoup de photos d'elle en train de rire, néanmoins, avec ses amis. Et puis, tout à coup, je l'ai vue, dans la fin d'après-midi, par terre, comme ça, avec un verre en face d'elle. Et manifestement, loin, loin, loin. Et j'ai armé machinalement l'appareil. D'abord, j'ai regardé, j'ai dit zut, 36e photo, ma pellicule est finie. Et j'ai armé machinalement et paf, il y en avait une 37e. C'est la photo cadeau. La photo en plus, parce qu'on a démarré la pellicule un peu trop tôt. Et la 37e photo, c'est souvent, je l'ai remarqué sur les planches contact, c'est souvent la bonne. Parce que on l'a fait, justement, c'est la photo cadeau, on l'a fait en toute décontraction, comme c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, et il se trouve que la photo, que ce que ça représente est aussi souvent un cadeau. C'est très curieux.
Alors, vous avez beaucoup, beaucoup photographié une amie qui nous a quittés en 2014, oui. Marie Dubois. Oui. Et Marco Mutel, notre réalisateur, a retrouvé un moment que vous avez vécu toutes les deux. C'était sur France Inter, dans le tribunal des flagrants délires, en 1980. Vous
allez
d'abord entendre la voix de Claude Villers.
Marie Dubois.
Alors là, c'était pas une condamnation.
Mais pour vous aider quand même, je crois que Annie Dupéret va venir à votre secours.
Bien sûr.
Oh la merde.
J'ai d'autres habitudes et d'autres que toi sont venues, les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps.
Qu'est-ce qui va rigoler?
Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure.
Je t'aime encore. Pardon, Serge.
La Cour remercie Marie Dubois et Annie Dupéret.
Oh, comme c'est charmant.
Alors, si la Cour vous a remercié, c'était en 80.
Mon Dieu, je ne me rappelais plus de cela. Non, mais c'est vrai que nous étions, chanson. Marie et moi, très, très amies avec Serge Lama et Marie-Paul Bell, d'ailleurs, qui est toujours une grande amie.
Voilà. Oui. Et Serge Lama, d'ailleurs, vous avez fait des portraits de lui.
Oui. Et je ne sais plus du tout pourquoi il était venu chez moi se faire photographier. Peut-être était-ce pour ce projet qu'il faisait à l'époque, qui était une comédie musicale sur Napoléon.
Elle est très belle, la photo où il est dans la cage d'escalier.
Je l'aime bien, oui, parce que la lumière est belle, quoi, avec ce visage comme ça, à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé. J'aime bien ces lumières qu'on trouve comme ça dans des couloirs, dans des escaliers, qui sont très propices à des choses justement un peu graphiques comme ça, du noir et blanc.
Et c'est là où vous rejoignez votre père, parce qu'il y a des photos comme ça dans le livre Le Voile Noir où on a l'impression, on ne sait plus si, bon, on sait que c'est lui, bien sûr, Lucien Legras, mais ça pourrait être vous aussi.
Oui, tout à fait.
Cette photo de la fenêtre, avec le rideau.
Avec le rideau, j'ai fait la même, effectivement, sans avoir vu celle-là.
Sans l'avoir vue.
Ah non, c'est
bien
très
sûr.
Étonnant, c'est très étonnant, ça, que j'ai fait pour certaines quasiment les mêmes, quoi. C'est très curieux. Mais il y a peut-être, vous savez, soit une psy m'a dit, soit tu as été dans le labo quand j'étais toute petite, tu as été frappée par certaines images, c'est possible. Soit il y a une fraternité, une paternité, si j'ose dire, de regard. Mm-hmm. Voilà.
Annie Dupéret, fabriquez-vous aujourd'hui, ou depuis un certain temps, un album de famille?
Oui, effectivement. Quand j'ai découvert les photos de mon père et donc la preuve que mon enfance avait existé était un peu douloureuse, je me suis senti le devoir, mais vraiment le devoir. Et au début, il n'était pas facile ce devoir, de prendre mon appareil avec des pellicules couleur, cette fois, et de photographier l'enfance de mes enfants. Je me suis dit que ça avait été si important que mon père laisse des traces pour moi, que je me devais de leur laisser une trace de leur enfance heureuse. C'est-à-dire que je les ai photographiés à peu près à tous les âges, puisque effectivement, j'ai découvert les photos de mon père quand ma fille avait 3 ans, mon fils 7-8 ans. Donc c'est surtout à partir de ce moment-là que je les ai photographiés.
Pour qu'ils aient une preuve eux aussi de leur existence.
Pour qu'ils aient une preuve du bonheur qu'ils ont eu, notamment l'été dans cette Creuse, de leurs vacances avec les cousins et tout ça.
Dans Le Voile Noir, il y a une très belle photo, peut-être elle est à Vendôme. C'est une photo de votre père sur un bateau. Le bateau est sur une remorque sur la plage. Et il est en maillot de bain. Il a une main sur votre genou. De l'autre côté, vous lui tenez le cou. C'est une photo d'une tendresse incroyable.
Oui, il y a plein de photos. Mais ça, c'est une photo de ma mère, donc.
Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, j'ai dit une photo de votre père.
Ma mère était photographe, effectivement, au départ, avec lui. Je pense qu'elle était plus au laboratoire, mais d'ailleurs, je n'en sais rien. Hein. Ma mère faisait peut-être de très, très belles photos. Peut-être, j'en sais rien. Dans les photos de mon père, il y a des photos de ma mère. Je ne sais pas du tout, en fait. Sauf qu'elle a arrêté d'avoir une activité professionnelle quand je suis née. Donc, ça a été quand même assez rapide, quoi. Mais c'est vrai que mon père n'aimait pas tellement les portraits. Là, je vois que vous tenez en main la photo, une photo où ma mère est en reflet, comme ça, dans une flaque d'eau. Je crois qu'il aimait l'humain comme une ponctuation dans les photos. Ça, la photo de mon père et de moi, c'était des photos de vacances, ça.
Absolument.
C'était pas ses photos créatives. Mais non. Ces photos créatives qu'il exposait, il n'y avait pas d'humain dedans. Mm-hmm. Du tout.
C'est vrai. C'est vrai.
Oui, oui, oui.
Je voudrais qu'on écoute encore une photo, enfin comme si la photo était sonore. Oui, celle-ci est étonnante. On va voir comment elle parle à une voix de France Inter, Denis Chessou.
Alors là, nous sommes des spectateurs derrière une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, eh bien, on voit au fond... des grands buildings. On peut penser à New York comme ville, ou en tout cas une ville américaine sûrement, avec une cascade, on va dire, de marches comme ça qui montent vers le ciel. Et puis au premier plan, bah, nous avons une balustrade en fer forgé avec des pointes en forme de petites cannes, et il y a un personnage. Et c'est vrai que la photo n'aurait pas cette dimension s'il n'y avait pas ce personnage emplumé qui s'appelle un moineau, sûrement, même si on est sur une photo en noir et blanc. Et ce moineau-là est en train de regarder ses tours, mais il se dit « Moi, je suis un passereau et je dois quand même chaque jour, pour survivre, boulotter la moitié de mon poids en nourriture. Où vais-je aller? Où vais-je donc picorer ?» Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que dans ce décor qui est merveilleusement minéral, la nature a toujours sa place, quoi qu'il arrive. Parce que d'abord, elle y était avant que les hommes, on va dire, ne l'envahissent. Et que ce soit des petites fleurs, que ce soit des petits oiseaux, en fait, la nature est absolument partout. Alors, il a sa place. Il a sa place, cet oiseau. Où va-t-il s'envoler? Où va-t-il nous mener? On n'en sait rien. Mais ça, c'est aussi peut-être à nous de le penser.
C'est dans le livre Les photos d'Annie, Annie Dupéré. Il a trouvé la ville de New York.
New York, bien sûr. Cette photo, je l'ai appelée un moineau à New York parce qu'effectivement, je crois que c'était tout simplement dans l'hôtel où j'étais. Et j'ai vu ce pauvre moineau qui était tout à coup un peu ébouriffé, comme s'il était un petit peu ramassé sur lui-même, comme ça, sur la balustrade, au milieu d'un champ de béton, quoi. Il y a que ça autour, il n'y a pas un arbre dans les rues, enfin c'est terrible. Et je me suis dit vraiment, qu'est-ce que ce moineau fait là? Alors moi, effectivement, j'avais pensé que peut-être j'avais pris cette photo, qui est quasiment une des seules que j'ai ramenée de New York quand même. J'ai trimballé un sac de 6-7 kilos à New York pour amener la photo d'un moineau. Je veux dire, bon, il fallait quand même être un petit peu malade quand même.
Ça veut dire que la ville ne vous a pas inspiré?
Alors peut-être je devais me sentir un peu comme ce moineau.
Le moineau, c'est vous.
Le moineau, je crois que c'est moi.
Et c'est drôle parce que j'ai rapproché cette photo-là d'autres photos dans le livre, qui sont des photos de la démolition de Montparnasse.
Oui, oui, oui.
Où là encore, on est dans le béton, mais le béton qu'on démolit, enfin des maisons qu'on détruit.
Alors
ça vous a beaucoup marqué, ce...
Oui, oui, oui. J'avais hésité à faire ce chapitre et je me suis dit, si, je vais le faire, parce que c'était une partie importante, finalement, de ce travail photographique. J'ai été reporter, finalement. Quand j'ai appris et constaté que la démolition du 14e arrondissement sud, derrière la gare Montparnasse, était en cours. Et en cours sur, je crois, au chiffre officiel, 10 hectares. Ce qui n'est pas rien.
Bien sûr.
D'un quartier populaire encore assez vivant, avec des maisons d'ailleurs encore tout à fait belles et tout, dont on avait décrété qu'elle devait disparaître pour laisser place au Sheraton, à toutes les choses modernes qu'il y a derrière la gare Montparnasse, voilà. D'abord, ça me touchait terriblement de voir que parfois, au dernier étage de ces maisons, dont les murs étaient quelquefois déjà, les fenêtres déjà murées, on avait commencé à préparer une démolition et du linge séchait aux fenêtres, qui prouvait qu'il y avait des gens là qui s'accrochaient à leur logis et qui ne voulaient pas le quitter et qu'on allait à un moment forcer à partir. Et ça me touchait énormément. Et je sais pas, je suis retournée souvent là-bas au fur et à mesure des démolitions comme ça pour faire ce que déjà j'appelais à l'époque des portraits de condamnés. Photographier ce qu'elle est détruit.
On est en quelle année, là? Excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas cette question, mais à peu près.
On est entre 73 et 80. Voilà c'est ça.
Ouais. Il y a trois photos que je trouve incroyables. C'est la photo d'un immeuble. Et en fait, vous recadrez cet immeuble. Et chose qu'on n'avait pas vraiment vue, c'est deux têtes qui sortent d'une fenêtre.
Oui, je ne l'ai pas vue en photographiant. Ça, elle m'a touchée après coup, cette photo, parce que je voulais photographier donc cet immeuble qui allait être promis à la démolition et dont un côté avait commencé déjà, puisqu'on avait mis des étais comme ça pour le démolir. Et il y avait le Sheraton tout neuf, tout blanc derrière. Donc je voulais photographier ce contraste. Je prends la photo et quand je suis revenue chez moi et que je l'ai développée, évidemment agrandie comme ça sur papier, tout à coup j'ai dit « Oh mon Dieu, il y a deux personnes » qui me regardaient, qui m'ont vu photographier et qui manifestement passent une tête inquiète à l'extérieur en se disant qu'ils se sont repérés.
Absolument.
Qui se cachaient encore dans leur appartement pour pas partir encore. Et moi, cette photo, elle m'a crevé le cœur après, parce que je me suis dit, ah là là, en plus, je leur ai fait peur.
Oui, c'est ça. Et à la suite, il y a une autre photo. C'est pour ça que je vous demandais un peu en quelle année on était, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, cette photo devient malheureusement, à nos yeux, banale. C'est un homme qui est sur un banc public, avec un sac accroché aux ferrailles du banc. Et puis, il est à moitié couché sur le banc et sa tête
la moitié du corps est tombée par terre. Il y a juste ses hanches et ses jambes qui restent sur le banc et la moitié du corps a glissé à terre et il dormait comme ça. Je crois que j'ai fait cette photo de retour d'une séance de photos du 14e de l'autre côté, effectivement. J'avais retraversé le boulevard. Et effectivement, j'avais fait cette photo en me disant c'est absolument incroyable que ce type continue à dormir, sans doute abruti par l'alcool, comme ça, à moitié par terre et à moitié sur le banc. Et ça me semblait le comble de la misère, quoi. Bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus fort depuis.
Annie Dupéré, je vais vous remercier.
Bah,
je crois
écoutez,
bien.
Voilà. On est à Vendôme.
Enfin, en tout cas, on n'y est pas là tout de suite,
non.
Mais on va s'y promener très bientôt. Ce sont les promenades photographiques de Vendôme. Et puis, il y a le livre « Les photos d'Annie » aux éditions du Seuil. Et le voile noir.
Le livre de mon père aussi, que j'ai fait sur les photos de mon père, qui s'appelle « Lucien Legras, photographe inconnu », que nous avions fait au Seuil en même temps que le voile noir.
Merci.
Oui. Ok.
Au revoir. C'était Regardez voir, une émission que vous pouvez retrouver en podcast évidemment sur la page franceinter.fr avec les photos d'Annie Dupéré, celle qu'elle a choisie, et puis toutes les infos pour aller aux promenades photographiques de Vendôme pendant l'été. Marco Mutel est à la réalisation, Thomas Lehété attaché de production, Thierry Dupin à la programmation musicale et à la technique Philippe Duclos. Je vous retrouve demain à 14h avec le récit d'une photo mythique, Alice en mendiante, une photo de Lewis Carroll en 1858. Et c'est Michel Poivert, historien de la photographie, qui prolongera cette réflexion autour de Lewis Carroll, photographe. Et bien sûr, juste après les informations, vous avez rendez-vous avec le feuilleton des médias francophones publics, Bashung, de l'aube à l'aube.